de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, pour célébrer en cette fin d'année notre prix Nobel de physique 2022, ou plus exactement le prix Nobel de physique décerné à trois pionniers de la physique quantique, dont le physicien français Alain Aspect, avec qui nous avions eu la chance de nous entretenir en avril 2021 à l'occasion du lancement en France du plan quantique. Alain Aspect, qui n'était pas encore prix Nobel, mais déjà médaille d'or du CNRS, internationalement reconnu pour avoir établi le phénomène d'intrication quantique, nous avait fait passer, comme à son habitude, avec chaleur et simplicité, les concepts les plus troublants de la mécanique quantique, les propriétés les plus mystérieuses de la matière dans l'infiniment petit, là où les principes de la physique classique ne fonctionnent plus et où tout est possible ou presque, et surtout l'inimaginable que des particules puissent être en même temps à deux endroits différents, qu'un chat, enfin celui de Schrödinger, puisse être à la fois mort et vivant, que la réalité dépendent de celui qui l'observe. Comment tous ces paradoxes, toutes ces intrigantes intrications, superpositions du monde quantique nous ouvrent sur une autre réalité, mais aussi vers des applications technologiques qui risquent fort de bouleverser nos vies. En attendant les ordinateurs quantiques, nous vous proposons de réécouter cet entretien croisé entre la physicienne Maud Vinet, responsable du programme Matériel quantique au CEA, au laboratoire Leti de Grenoble, et le professeur et désormais prix Nobel de physique Alain Aspect, autour de la question « Comment se préparer au plan quantique et jusqu'où ?» Bienvenue dans les coulisses d'une révolution en marche.
Les propriétés de la physique quantique sont déjà dans notre vie au quotidien. Ils sont au cœur du GPS, du laser, du transistor, des ordinateurs d'aujourd'hui. Il y a dans les laboratoires une seconde révolution technologique qui se prépare, qui se propose d'exploiter des concepts très subtils de la physique quantique. Ces concepts, on les appelle superposition et intrication. Et grâce à ces concepts, on peut développer de nouvelles technologies. L'ambition, c'est de développer par exemple un ordinateur ultra puissant qui aurait des performances bien au-delà de celles des meilleurs calculateurs qui existent aujourd'hui, ou aussi par exemple de développer des communications ultra sécurisées dont la sécurité, la confidentialité seraient garanties par les lois de la mécanique quantique.
La physicienne Pascale Senlard de l'École Polytechnique et de la start-up Candela a retrouvé en interview sur le blog L'Extramédia d'Univers Science. Autour de la question « Comment se préparer au plan quantique ?», nous avons le plaisir et l'honneur, je dois dire, d'être en direct en ligne avec vous, professeur Alain Aspect. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là pour nous éclairer, car l'éminent physicien que vous êtes, internationalement reconnu pour vos recherches, vos expériences, vos découvertes en optique, en intrication quantique, même si vous n'aimez pas l'expression, vous êtes tout de même celui qui a réussi à prouver qu'Einstein avait tort face à Niels Bohr, ce qui vous a valu, entre autres, de recevoir les prix Niels Bohr et Einstein. Vous avez été le seul Français, d'ailleurs, lauréat du prix Niels Bohr. Vous êtes également lauréat de la médaille d'or du CNRS et de prestigieux prix scientifiques internationaux, car le professeur de physique à l'École Polytechnique que vous êtes, titulaire de la chaire Augustin Fresnel à l'Institut d'Optique, est aussi un formidable passeur de sciences à vos étudiants, d'abord, dont certains sont aujourd'hui parmi les chercheurs les plus prometteurs dans le domaine de la mécanique quantique, mais aussi au grand public que nous sommes. Et pourtant, franchement, rien de plus difficile, de plus excitant aussi peut-être, je ne sais pas, que d'essayer de faire passer cette mécanique quantique, la non-séparabilité, l'intrication, la superposition quantique, que la réalité dépende de nous qui l'observons, la réalité au niveau microscopique, c'est juste inimaginable et incompréhensible pour nos esprits humains, contraire à tout ce qu'on vit, à tout ce qu'on voit, totalement paradoxal. Pourtant, vous, vous arrivez à le penser, à Alain Aspect, et même à l'expérimenter. Comment faites-vous?
Alors, le penser, je n'en suis pas sûr. Ah. L'expérimenter, oui. Mais le penser, il y a une façon qui est probablement la seule de vraiment rentrer sérieusement dans la mécanique quantique, malheureusement, c'est d'entrer dans les mathématiques. Car c'est les mathématiques qui donnent accès au monde quantique. Et à partir de là, à partir du moment où on maîtrise ce formalisme, On est capable de décrire ce que les expériences nous montrent, même lorsque ce qu'elles nous montrent est totalement contre-intuitif. Je crois que la vraie méthode la vraie certitude que ce qu'on voit correspond à ce qui est dans la théorie, c'est de maîtriser les mathématiques. Et donc, mon approche, parce qu'on ne peut pas exiger de tout le public qui a envie d'en savoir plus, on ne peut pas lui exiger de prendre un cours qui va durer plusieurs semaines, comme on le voit dans les MOOC, hein, dans les auditeurs peuvent trouver le lien sur
notre page, hein, absolument. Vous êtes auteur de deux MOOC de physique quantique.
Voilà, mais malheureusement, ce n'est pas la mécanique quantique pour les nuls, c'est plutôt la mécanique quantique pour des gens qui ont déjà 2 à 3 ans d'université. Et donc, si on veut pouvoir s'adresser à des gens qui ne remplissent pas ce cahier des charges, ma méthode personnelle, c'est de donner des exemples en disant, si vous prenez un photon, vous lui faites faire ceci, vous lui faites cela, voilà. Ça vous étonne? Oui, et bien c'est comme ça, la mécanique quantique est étonnante. Donc, ma façon de communiquer sur la mécanique quantique, c'est de décrire des phénomènes a priori totalement incompréhensibles, mais de dire, écoutez, c'est comme ça, on a fait des expériences, je peux vous décrire l'expérience, et voilà, c'est ça qu'on a observé. Et puis, pour rassurer les gens et leur dire, mais il n'y a pas de magie, il y a des formules mathématiques qui sont en parfait accord avec ce que nous observons. Je ne connais pas de méthode plus efficace que cela, je suis désolé si c'est frustrant, mais je crois que c'est pas mal de décrire. J'essaierai de vous en décrire.
Oui, on compte sur vous, Alain. Je sais que vous allez nous en écrire auparavant autour de la question comment nous préparer au plan quantique, à cette révolution en marche, comment la penser, comment la comprendre, une révolution en marche dans votre laboratoire, Maud Vinet. Je voudrais vous saluer. Vous êtes également avec nous en duplex, enfin plutôt en téléphone amélioré depuis les studios de France Bleu, Isère à Grenoble. Bonjour Maud Vinet.
Bonjour Caroline.
Alors vous êtes physicienne, responsable du programme matériel quantique au CEA, au laboratoire LETI donc de Grenoble, où vous relevez ce défi insensé, il faut le dire, révolutionner l'informatique, donc nos vies, hein, l'informatique à la lumière de cet étrange et troublant monde quantique qu'il est difficile de penser sans formule mathématique, mais qu'il est possible d'expérimenter. On va essayer avec vous, Maud Vinet, de lever, comment dire, un coin du voile, enfin d'ouvrir un peu le capot, la boîte noire, de rentrer dans les coulisses de cette révolution insensée. Comment est-ce que vous parvenez à dompter ces fabuleuses, comment dire, ces étranges propriétés du monde quantique, complètement contre-intuitives, pour les mettre peut-être un jour dans nos ordinateurs? Maud Vinet.
Alors, dire qu'on arrive à les dompter facilement, ça serait un grand mensonge, mais notre stratégie, en fait, elle est de partir d'objets qu'on connaît bien, qui sont les transistors de la microélectronique. Et ces transistors de la microélectronique, on diminue leur taille et on les refroidit de sorte à ce qu'on puisse piéger un seul électron dans ces transistors. Et comme le disait Pascal, avec un seul objet unique, un seul électron, on peut avoir accès aux propriétés de superposition et d'intrication qui préparent la seconde révolution quantique. Donc nous, comment on se prépare? C'est qu'on prend des objets qu'on a l'habitude avec lesquels on a l'habitude de travailler et qu'on va pousser dans leurs limites pour qu'ils soient en contact avec un seul objet, et cet objet qui est dans notre cas l'électron, on va essayer de le manipuler et de faire des expériences de superposition et d'intrication pour qu'on puisse préparer l'ordinateur quantique. Et c'est vraiment une approche où on part d'objets qu'on avait déjà, puis on les pousse dans leurs limites à la fois en taille et en température pour être dans des conditions où on manipule un seul objet unique, et donc du coup on s'approche de la seconde révolution quantique.
Si je vous entends bien tous les deux, Maud Vinet et Alain Aspect, finalement cette révolution quantique ou cette mécanique quantique, il est impossible de penser parce qu'elle est impensable pour nous avec nos esprits dans notre réalité, il est en fait possible de l'expérimenter. C'est ça, c'est qu'en fait on en est finalement à expérimenter quelque chose qu'on ne peut pas comprendre complètement. Alain Aspect, on pourrait le dire comme ça?
Oui, je peux vous donner un exemple, puisque je vous ai promis des exemples. Quand Maud explique que dans cette seconde révolution quantique, elle va utiliser un seul électron, moi je suis plutôt quelqu'un du seul photon. Et il y a bientôt 40 ans, malheureusement, ça ne nous rajeunit pas, lors de la thèse de Philippe Grangier, nous avons pour la première fois au monde réussi à produire un seul photon à la fois, un photon unique, qui aujourd'hui joue un rôle très important dans les sources de Pascal Sennelard. Mais la question, c'est, si je vous dis que j'ai un seul photon, vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous pourriez dire, mais non, c'est une impulsion lumineuse habituelle, quelque chose comme ça. Comment l'avons-nous prouvé? Eh bien, tout simplement, si j'ose dire, parce que ça a été une expérience qui a pris des années.
Bien sûr.
Nous l'avons prouvé en arrivant à produire ce photon unique, ce qui était un tour de force, et ensuite en l'envoyant sur une lame surréfléchissante, qui est une lame de verre. Alors, quand vous avez un rayon lumineux sur une lame de verre, vous avez une partie du rayon qui est transmis et une partie qui est réfléchie. Tout le monde a observé ça. Mais si vous avez un photon unique, et si les mots ont un sens, ce photon unique, il ne va pas se couper en deux. Il ira soit d'un côté, soit de l'autre. Et nous avons donc mis deux détecteurs derrière cette lame de verre, et nous avons observé que le photon était effectivement détecté soit d'un côté, soit de l'autre, mais jamais des deux côtés à la fois. Eh bien, ceci est une propriété qui n'avait jamais, jamais été observée. Et figurez-vous que 40 ans plus tard, cette propriété, elle sert à un élément de technologie quantique qui s'appelle un générateur de nombres aléatoires. Le générateur de nombres aléatoires le plus sûr que l'on puisse imaginer, il est fait de photons uniques qui arrivent sur une lame semi-réfléchissante. Quand ça va d'un côté, on dit c'est 1, quand ça va de l'autre côté, c'est 0. Personne ne peut à l'avance prédire si c'est un 1 ou un 0, et ça c'est la meilleure définition de l'aléatoire. Personne ne pouvait dire avant le nombre qui allait sortir. Voyez comme tout est regroupé l'un avec l'autre. Nous avons fait une découverte fondamentale il y a 40 ans et aujourd'hui, ça peut être à la base des meilleurs générateurs d'un nombre aléatoire du monde.
C'est ça, et c'est vrai que c'est vraiment une science fondamentale qu'il est très difficile de penser, qui va dans l'infiniment petit. Hein. Vous arrivez à, quand vous parlez d'un photon, ça veut dire ça paraissait complètement fou il y a quelques années et qui a immédiatement des applications mais qu'on ne peut pas voir tout de suite d'ailleurs. Hein. Autour de la question comment nous préparer à ce plan quantique, histoire de continuer à déblayer un peu, à y voir un peu plus clair. Je propose un nouvel éclairage en forme d'exemple aussi d'un autre formidable penseur, expérimentateur de ce monde quantique, le prix Nobel de physique Claude Cohen-Tanoudji, avec qui vous avez travaillé, Alain Aspect. Nous avons eu la chance de recevoir également ce grand monsieur génial et chaleureux. Voilà comment lui nous faisait passer ici même, c'est en décembre 2019, par l'exemple également, la mécanique quantique.
Un exemple du problème qu'on peut se poser et qui est tout à fait troublant, c'est qu'en physique quantique, un objet, par exemple, une particule, peut être en même temps à tel endroit et à tel autre. Et non pas à tel endroit ou à tel autre. Il peut être en même temps à deux endroits différents. C'est ce qu'on appelle les superpositions d'état. Et ça aussi, c'est difficile à comprendre. Si on pousse encore le paradoxe plus loin, c'est ce qu'a fait Schrödinger, il y a l'état vivant et l'état mort. Un chat peut être à la fois vivant et mort. C'est le fameux chat de Schrödinger.
Chat de Schrödinger, oui.
Alors, évidemment, ces situations étonnantes sont extrêmement peu probables à l'échelle macroscopique. Mais à l'échelle microscopique, un photon peut être en un endroit et en même temps à un autre endroit. De même, une particule, un électron, peut être à un endroit et à un autre endroit. C'est pour ça qu'il peut passer par deux trous à la fois et donner naissance à des phénomènes d'interférence.
Donc ça, c'est une notion quantique qui existe donc à l'état totalement microscopique, en infiniment petit, on peut être vivant et mort, on peut être à un endroit et à un autre en même temps. Enfin,
Elle donne naissance à des effets observables. Alors, plus on monte dans la complexité du système, plus il devient macroscopique, moins la probabilité d'un tel effet peut être importante pour se produire. Donc, il y a toujours des phénomènes de ce qu'on appelle de décohérence qui démolissent ces superpositions d'état. Mais il n'empêche que ces phénomènes existent et que c'est ça qui fait le mystère de la physique quantique. Et c'est ça qui fait que peut-être dans l'information quantique, des nouveaux systèmes pourrait apparaître dans le futur permettant de traiter l'information.
On parle d'ordinateur quantique. Bon, là, c'est un peu...
C'est encore peut-être plus loin, mais déjà, il y a des réalisations en information quantique qui repose un petit peu sur ces idées de superposition d'état et qui donne naissance à des possibilités complètement nouvelles.
Quelles possibilités complètement nouvelles sont ouvertes par la physique quantique, par la mécanique quantique ?
Quand on parle d'ordinateur quantique, et quel est le lien avec le chat de Schrödinger ? Bon, le chat de Schrödinger, bien entendu, C'est une image, le chat vivant est mort, mais ce qu'il veut dire par là, c'est que, effectivement, je vous ai parlé tout à l'heure du photon qu'on envoie sur l'âme semi-réfléchissante, et on va l'observer soit d'un côté ou de l'autre. Mais, si on ne l'observe pas, il est à la fois des deux côtés. Et c'est ça la superposition, si vous voulez. Et
c'est ça, il faut qu'il y ait un observateur.
Voilà, s'il n'y a pas d'observateur, il reste dans une superposition. Alors, tant qu'il y a un objet, on ne peut pas en faire trop de choses en termes d'information. En revanche, quand vous avez beaucoup d'objets, on va arriver à un état intriqué. Et un état intriqué, c'est un état dans lequel cet ensemble d'objets, ils sont à la fois une chose, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le nombre de possibilités augmente exponentiellement au sens scientifique du terme, c'est-à-dire extrêmement vite. Ça augmente exponentiellement avec le nombre d'objets intriqués. C'est ainsi que si vous avez 50 ou 100 bits quantiques de ces bits quantiques que Maud Vinet essaie de produire avec des électrons et que nous produisons avec des photons, si vous avez 50 ou 100 bits quantiques intriqués, eh bien, accrochez-vous bien, le nombre de possibilités est de l'ordre du nombre de molécules qu'il y a dans l'univers.
Ah, c'est hallucinant.
Et donc, ça veut dire qu'il y a des possibilités de manipulation de l'information absolument gigantesques, et l'espoir de l'ordinateur quantique repose sur cette propriété. Alors, je vous préviens tout de suite, il ne faut pas se mentir, comme disaient les jeunes, on est loin d'être capable d'exploiter toutes ces possibilités. Mais on en exploite un petit peu. Et donc, c'est là qu'on est dans cette fameuse course à l'ordinateur quantique, dont personne ne sait si l'ordinateur quantique idéal auquel on rêve sera un jour produit, mais dont nous avons la certitude aujourd'hui que des versions dégradées, appelé ordinateur NISQ pour Noisy Intermediate Scale Quantum Computer, on sait que ce genre d'ordinateur un peu dégradé, eux, vont nous permettre de résoudre un certain nombre de problèmes qu'on ne peut pas résoudre avec des ordinateurs classiques.
Maud Vinet,
je ne sais pas si Maud est revenue.
Maud est revenue et j'aimerais bien vous faire réagir, Maud Vinet, là-dessus, puisque justement, vous essayez de développer, donc on a bien compris ce que vient nous dire Alain Aspect, ces qubits, ces bits quantiques en plus grand nombre, parce que finalement, on arrive à en produire quelques-uns, mais on passerait à l'étape au-dessus, à ces ordinateurs quantiques, même dégradés, même imparfaits, dont parle Alain Aspect, on pourrait y arriver.
Eh bien, c'est l'ambition. Et pour compléter ce que disait Alain, au niveau applicatif, moi je suis fascinée par le fait qu'il y a des mathématiciens qui aient commencé à réfléchir à ce qu'ils pouvaient faire avec ces états intriqués et quels étaient les algorithmes qu'ils pouvaient produire pour tirer bénéfice de ces états intriqués. Parce que ce que disait Alain, si on revient à une analogie avec les calculateurs classique, là, c'est le calcul quantique qui possède en lui-même un parallélisme intrinsèque, puisqu'on a accès à tous ces états intriqués d'un coup. C'est comme sur un seul coup d'horloge, on avait accès à tout notre système. Et ça donne des propriétés de parallélisme intrinsèque qu'il faut savoir exploiter d'un point de vue algorithmique. Et donc, il y a des algorithmiciens, des mathématiciens qui ont réfléchi à ce qu'ils pouvaient en tirer. Et aujourd'hui, ça trouve potentiellement des applications dans le monde réel.
Par exemple.
Il y a, alors pour revenir à ce que disait Alain, pour commencer sur des algorithmes de type NISQ, c'est-à-dire où on n'a pas besoin de la perfection de tous les qubits, on pourrait utiliser ces objets quantiques pour simuler des systèmes quantiques. Et simuler des systèmes quantiques, Alain disait, un des premiers systèmes quantiques, c'est l'atome. C'est un assemblage d'atomes, ça peut être des molécules. Et on pourrait utiliser nos ordinateurs quantiques pour faire de la simulation de molécules. Et de la simulation de molécules, ça trouve de l'application dans le domaine pharmaceutique, éventuellement dans le domaine agricole pour trouver des engrais qu'on ne sait pas aujourd'hui utiliser, dans le domaine pharmaceutique pour calculer des propriétés de médicaments qu'on ne sait pas aujourd'hui calculer avec nos supercalculateurs. Et ça, c'est un premier domaine d'application.
Et c'est vraiment, c'est pas seulement passer à la vitesse supérieure, c'est changer complètement de manière de calculer, de pouvoir entrer à l'intérieur même de la matière, c'est ça?
Exactement. Enfin, Et c'est vraiment tirer parti des propriétés quantiques de la matière en étant capable de les maîtriser. Alors, c'est un bien grand mot hein, pour redire ce que disait Alain, et puis pour être, en étant humble par rapport à l'état où on en est aujourd'hui. Mais on pourrait programmer, ce qu'on imagine, c'est qu'on pourrait programmer des systèmes quantiques, les laisser évoluer pour voir vers où tend naturellement le système et ainsi avoir des réponses à des questions qu'on se pose au niveau applicatif, au niveau propriété de telle ou telle molécule. Et pour ça, effectivement, il faut un grand nombre de qubits. Aujourd'hui, dans le monde, eh ben, il y a 53 qubits qui ont été réalisés par Google.
Donc des bits quantiques, c'est ça, hein, les
des
qubits.
Des bits, pardon, le qubit. C'est l'analogie avec le calcul classique, c'est le bit quantique. Et donc la terminologie, c'est effectivement qubit. Et il y a un peu cette course au qubit, pas que en termes de nombre, parce que pour faire des calculs, la qualité du qubit va être importante. Et c'est ce que disait Alain tout à l'heure, la qualité, on le relie à la décohérence, comment il va être sensible à l'environnement extérieur. Et donc, on essaye de faire des qubits qui vont conserver leur état quantique le plus longtemps possible. Il y a d'autres propriétés qui sont importantes pour ces qubits. C'est la vitesse à laquelle on peut les manipuler, parce que ça nous donnera une idée aussi des calculs qu'on peut réaliser et de est-ce qu'on peut être compétitif par rapport à un ordinateur classique. Et c'est tout ça sur lesquels aujourd'hui, la recherche est en train de travailler, de faire beaucoup de qubits de bonne qualité.
Autour de la question comment faire beaucoup de qubits de bonne qualité, non, c'est pas une émission ésotérique, comment se préparer au plan quantique, à cette révolution en marche qu'il est si difficile de penser, mais que l'on peut déjà expérimenter, ben peut-être justement, faut-il être capable d'ouvrir vraiment notre esprit à autre chose, à d'autres réalités, à d'autres manières de penser, capable de faire des mathématiques aussi à un niveau très élevé, mais c'est sûrement pas par hasard, si Alain Aspect comme choix musical, vous m'avez demandé d'écouter Georges Brassens, esprit libre par excellence. Allez, on écoute La Mauvaise Réputation sur RFI.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-chatte, ça va de soi.
Ça va de soi, Georges Brassens, La Mauvaise Réputation sur RFI. C'est pour vous, professeur Alain Aspect. Non pas que vous ayez mauvaise réputation, hein, loin s'en faut. Mais enfin, tout de même, vous êtes...
Attendez, je vais vous faire un commentaire inspiré. Je ne savais pas que vous alliez choisir cette chanson. Alors, je vais faire un commentaire sur la façon dont fonctionne la science. Et c'est une vision optimiste. Mm-hmm. Il est vrai que quand j'ai commencé ma thèse sur l'intrication quantique, beaucoup de gens me déconseillaient, pour diverses raisons, de me lancer dans ce sujet. Mais je dois dire que, à la différence de la chanson de Brassens, quand j'ai eu mené mes expériences et que les gens ont vu la propriété extraordinaire que cela mettait en évidence dans le monde réel, eh bien, on n'est pas venu me voir pendu. Et on m'a donné des grands prix scientifiques. Alors, je trouve que c'est une vision assez optimiste de la science. Ceci, vous pouvez en témoigner, n'était pas préparé, car je ne savais pas que vous aviez choisi
absolument.
Cette chanson.
C'est nous qui avions choisi ça. Mais justement, je me disais, vous savez penser à côté. Mais finalement, oui, autour de vous et en science, on encourage à penser à côté autrement, le plus intrigant, le plus insensé, et ce qui ne correspond pas à nos intuitions autour de la question jusqu'où nous entraînera donc le plan quantique entre promesses d'ordinateur quantique et réalité de ce que vous pensez, vous expérimentez et de ce que vous développez, Maud Vinet. Vous êtes au laboratoire matériel quantique du CEA où la révolution quantique est effectivement en marche. Mais jusqu'où? Qu'est-ce que ça va changer pour nous, notamment au niveau des questions de sécurité, de cryptographie, de cryptoanalyse et de cryptologie? C'est précisément la question qu'a eu envie de vous poser à tous les deux le professeur Jacques Stern du Collège de France, pionnier et acteur de la cryptologie, qui était récemment notre invité.
Je voudrais effectivement poser une question à Maud Vinet et à Alain Aspect. On a démontré que si l'ordinateur quantique devait être construit, alors il serait en mesure de briser le système de chiffrement à clé publique RSA inventé par Rivest, Shamir et Adleman. D'un autre côté, il ne semble pas qu'on ait fait des progrès très significatifs sur la question de manipuler un nombre suffisant de qubits avec une correction d'erreur satisfaisante. Donc je souhaiterais savoir quand ils imaginent que ce progrès sur la correction des erreurs quantiques pourra se produire.
Qui peut répondre à Jacques Stern ?
Ah, moi, je peux répondre.
Alain Aspect.
Je peux répondre en disant que il a parfaitement raison en mettant en doute le fait qu'on puisse avoir rapidement un ordinateur quantique avec suffisamment de qubits parfaits, intriqués, pour pouvoir mettre en œuvre le fameux algorithme de Shor. Mais là où il a tort, c'est que, et je le dis en toute amitié, je connais bien Jacques Stern depuis longtemps. C'est que, à mon avis, il faut prendre la question par un autre bout. La cryptographie actuelle repose sur l'hypothèse que votre adversaire, celui qui essaie de déchiffrer le message que vous avez codé, n'a pas des ordinateurs beaucoup plus puissants que les vôtres, mais beaucoup, ça ne veut pas dire un milliard de milliards de fois, ça veut dire mille fois plus puissant que vous, ou qu'il n'a pas un mathématicien génial qui a démontré un théorème que personne ne connaît encore, mais dont on n'a pas prouvé l'impossibilité, un théorème qui autoriserait à décomposer très rapidement les nombres premiers. Et donc, vous voyez que la cryptographie telle qu'elle existe aujourd'hui repose sur l'hypothèse d'un certain niveau technologique et mathématique. Alors que l'idée de la cryptographie quantique, qui est indépendante de cette question de factorisation des nombres et d'ordinateurs quantiques, l'idée de la cryptographie quantique, c'est que la sécurité de votre méthode va reposer sur les principes mêmes de la physique quantique. Autrement dit, tant qu'on n'a pas trouvé que la mécanique quantique est une théorie qui est fausse, eh bien, si on utilise la cryptographie quantique, la sécurité repose sur les principes les plus fondamentaux. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point qu'il faut absolument évoquer, c'est que développer ce qu'on appelle la distribution de clés quantiques, ce n'est que un pas intéressant et important sur le plan technologique pour arriver à relier entre les futurs ordinateurs quantiques, c'est-à-dire pour faire ce qu'on appelle le réseau, l'Internet quantique. Et la distribution de clés quantiques n'est qu'une façon, au fond, de tester comme banc d'essai de notre aptitude à transmettre l'intrication d'un ordinateur à un autre. Donc je crois que l'argument de Jacques est parfaitement légitime, mais il est à côté, me semble-t-il, de ce qu'un certain nombre de gens envisagent dans le plan quantique.
C'est-à-dire aussi que dans ce plan quantique, il s'agit de mettre ensemble les physiciens fondamentaux et expérimentaux comme vous, Alain Aspect, qui tente qui pense, qui expérimente la mécanique quantique, et des physiciens plus appliqués ou des ingénieurs comme vous, Maud Vinet, de faire finalement un écosystème pour faire des liens entre cette recherche essentielle, fondamentale, très troublante en mécanique quantique et les applications qui pourraient avoir lieu de plus, séparer tout ça.
Exactement.
Maud Vinet.
Ouais, exactement. C'est exactement l'idée, c'est de créer un écosystème qui ira aussi jusqu'aux industriels et qui passe par l'enseignement parce qu'on va avoir besoin de gens qui sont formés. Et l'idée, c'est que aujourd'hui, si on veut faire des technologies quantiques, c'est-à-dire utiliser la physique quantique pour créer des objets qu'on aura dans notre quotidien et qui vont avoir un impact sur le monde, eh ben, il faut tout un ensemble de disciplines. Il ne suffira pas d'avoir un qubit et de bien comprendre comment il marche, parce qu'il faudra être capable de l'utiliser. Et si je reprends l'exemple de l'ordinateur, ce n'est pas parce qu'on sait manipuler 3 qubits qu'on a un ordinateur. Il va falloir en faire plusieurs, de bonne qualité. Donc là, il y a déjà de l'ingénierie qui est mise en place pour augmenter le nombre, fiabiliser les procédés. Puis après, ces qubits, il va falloir les contrôler. Donc, je prends l'exemple des électrons. Mais il va falloir toute une électronique de pilotage. Et là où le physicien, il arrivait à se débrouiller avec son savoir-faire personnel, quand on commence à vouloir piloter un grand nombre d'électrons, on a besoin des compétences de l'électronicien, dont c'est le métier aujourd'hui d'aller piloter des circuits de grande taille. Et donc on va assembler, puis si on monte un peu plus dans les couches, et ben il va falloir des gens qui savent compiler, c'est-à-dire qui savent traduire des instructions complexes dans un langage machine. Donc il faut qu'on ait des gens qui nous fassent le lien entre des informaticiens quantique et la réalité du matériel quantique sur lequel on programme. Il va falloir des informaticiens quantiques. Et c'est ça que le plan aujourd'hui propose de structurer en France, en nous donnant des moyens, en nous incitant à travailler ensemble.
Et moi, ce que je trouve assez étonnant, alors vous m'avez dit, c'était un peu hors antenne, Maud Vinet, mais j'ai trouvé la formule tellement jolie et intéressante qu'en gros, en plus elle était assez étonnante, Alain Aspect qui est avec nous, c'était le cerveau par rapport au monde quantique et que vous étiez les muscles de manière très humble. Mais ce que je trouve très étonnant et en vous entendant vous deux, vous essayez de vous mettre à notre portée, c'est que tout ce monde quantique, cette physique quantique, elle nous fascine tous. Et en même temps, c'est peut-être l'occasion de à la fois de voir comment marche la science, la physique, que c'est vrai tant qu'on n'a pas démontré que c'était faux, qu'on peut l'expérimenter et même l'utiliser sans tout comprendre, que c'est aussi quelque chose qui nous ouvre à autre chose. Et la preuve, c'est quand même, à l'aspect, que nombre de vos anciens étudiants, alors de votre premier thésard que vous avez cité tout à l'heure, Philippe Grangy, avec qui vous avez démontré des choses extraordinaires, jusqu'à un des plus récents thésards Antoine Brovès, montent toutes des start-up très intéressantes où on travaille en commun, en collectif, pour passer, comment dire directement, pour qu'il y ait du fondamental et de l'appliquer, c'est ça ?
Oui, je pense que c'est une évolution relativement récente en France et qu'il faut saluer parce qu'on s'est lamenté pendant des décennies sur le fait que la France n'était pas capable d'exploiter ces formidables découvertes de recherche fondamentale et de les transformer en applications qui finalement vont être utiles pour le public. Je ne vais pas revenir sur la question des vaccins que tout le monde a en tête, mais il n'y a pas que sur les vaccins, et on se lamentait de cette incapacité. Eh bien, je crois que effectivement, depuis, on va dire, 2 décennies, on voit dans le domaine du quantique précisément, je ne sais pas pourquoi, il faudra que des sociologues se posent la question pourquoi ça s'est passé dans le quantique, mais nous avons effectivement des jeunes chercheurs de la génération après moi qui ont décidé, tout en continuant de faire leur recherche fondamentale, d'encourager la création de start-up. Et moi-même, lorsqu'ils sont venus me voir, je leur ai dit « oui, allez-y, et si vous voulez, je vais vous aider ». Et ces start-up, il faut qu'elles mettent ensemble des gens qui sont les cerveaux, comme dirait Maud Vinet, mais qui vont continuer à faire la recherche dans leur laboratoire, mais qui vont communiquer presque quotidiennement et très fréquemment avec des gens qui ont plus la fibre ingénieur, qui ont envie de développer des technologies de pointe absolument extraordinaires et de mettre en œuvre ces concepts développés dans le laboratoire qui est à côté. Et le meilleur modèle, c'est celui qui ressemble à MIT ou à Stanford aux États-Unis. Ouais, ouais. C'est le modèle dans lequel les startups se trouvent géographiquement extrêmement proche des centres de recherche où les gens ont fait leurs études, ont fait leurs thèses, et puis ils retrouvent leur ancien patron, ils retrouvent des collègues, ils parlent avec eux, ils vont à la cantine à midi. Bon, j'espère qu'on retrouvera bientôt les cantines, parce que c'est quelque chose...
dans lequel on peut discuter et partager, bien sûr.
Des interactions, enfin, exactement, on peut partager. Et je crois que, encore une fois, comme vous le voyez, je suis quelqu'un d'optimiste. Et je crois que cette évolution de la France, elle est vraiment souhaitable. Et de ce point de vue, il faut rendre hommage aux politiques qui ont compris qu'il fallait encourager ça en lançant ce plan quantique qui va accélérer formidablement ce mouvement qui était spontanément à l'œuvre. Voilà.
Et en France, où, rappelons-le, bah, nous vous avons, Alain Aspect, hein, médaille d'or du CNRS, nous avons deux prix Nobel, Albert Fert, Serge Haroche, Claude Cohen-Tanoudji, enfin, où nous avons des cerveaux, et où nous avons des cerveaux et des mains et des muscles. Je ne sais pas si vous aviez imaginé tous les deux aller aussi loin quand vous avez commencé à travailler sur l'intrication quantique. Alain Aspect, Maude, quand vous faisiez votre thèse, en tout cas, en physique fondamentale, Maude Vinet, voilà ce que vous écoutiez en boucle, Neil Young sur RFI, Heart of Gold.
Écoutez RFI.
La physique quantique me comble de bonheur.
Tant mieux.
C'est comme observer l'univers tout nu.
Autour de la question.
Une des répliques cultes de Big Bang Theory, une série télévisée qui, pour une fois, met en scène de jeunes scientifiques, de jeunes physiciens et physiciennes quantiques. De quoi vous réjouir, Maude Vinet, vous qui écoutiez en boucle, je crois, aux grandes dames de vos colocataires, cette chanson de Neil Young que l'on entend en faisant votre thèse.
Oui, exactement. Et pour commenter sur Big Bang Theory et reprendre ce que disait Alain, je pense qu'il est très très important de démocratiser la physique quantique et puis d'accepter de ne pas tout comprendre, parce que si on veut en faire quelque chose, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit inaccessible et qui est juste un happy few qui comprennent les concepts. Il faut accepter qu'on ne comprenne pas tout et qu'on puisse apporter chacun, avec nos compétences, quelque chose à l'édifice, et qu'on mette en place ces esprits d'équipe où on n'a pas tous les mêmes compétences, mais on a tous un rôle à jouer. Et c'est un message que j'aime bien dans Big Bang Theory, qu'on regarde en famille ou avec les amis et qu'on rigole, parce que ça les rend attachants, ces scientifiques, et ça démocratise beaucoup la physique quantique.
Alain Aspect, vous êtes d'accord avec ça? Parce que c'est quand même quelque chose que vous défendez tous les deux, et en même temps on a l'impression que ce qui attire dans la mécanique quantique, c'est aussi cet aspect complètement fou qui est presque délirant pour nous, et en même temps, comme le dit Maude Vinet, il ne faut pas le cantonner à ça, enfin, et c'est vrai que moi, mon ordinateur dont je me sers, ou mon téléphone, de toute façon je ne comprends pas comment ça fonctionne, donc finalement dans le monde quantique, je ne comprends peut-être pas plus comment ça fonctionne, mais c'est peut-être pas si grave que ça. Alain
oui,
Aspect.
Mais Maud nous a dit quelque chose qui va un peu au-delà de ce, du fait oui. que vous, vous ne comprenez oui, pas oui. votre ordinateur. Oui, oui. Elle nous a dit que nous avons aussi besoin d'ingénieurs qui vont être initiés à un certain nombre d'idées quantiques, mais qui n'ont pas besoin de connaître l'ensemble de toutes les subtilités, parce que okay. ça prend une vie entière de réfléchir aux problèmes les plus fondamentaux. Et d'où la nécessité de développer aujourd'hui, et ça fait partie aussi du plan quantique, des enseignements qui vont donner de très solides bases de physique quantique à un certain nombre de gens qui après vont se retrousser les manches et développer les appareils et les technologies qui vont mettre en œuvre effectivement ces principes les plus fous, sans forcément que les gens soient allés creuser la théorie la plus complète. Je veux dire, les gens qui utilisent les transistors dans les ordinateurs, les ingénieurs qui font marcher tout ça, ne connaissent pas tous le détail de la description quantique de la façon dont les électrons se propagent dans les transistors. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, absolument.
Et donc, je pense que ce qu'a dit Maud est très important. Il faut montrer aux gens que c'est intéressant, leur donner un certain nombre de bases suffisantes. Après, il faut retrousser les manches et il faut y aller, il faut faire.
Faut faire, c'est précisément pour ça que vous soutenez tous les deux donc ce plan quantique qui a été annoncé par le président Macron en janvier, hein, au tout début de cette année 2021, autour de la question comment se préparer, comment mieux se préparer à ce plan quantique. Je propose tout de suite d'écouter l'éclairage d'un autre génie scientifique, le mathématicien et député Cédric Villani, qui soutient lui aussi, comme vous, ce plan quantique. Il est interrogé par Caroline Fillette.
L'informatique quantique prend sa place aux côtés de nouvelles techniques informatiques que sont l'intelligence artificielle, mais avec une saveur assez différente. Là où l'intelligence artificielle, c'est partout et ça change tous les métiers et ça, c'est l'affaire de tout le monde, l'informatique quantique, c'est l'affaire de quelques spécialistes. Ça repose sur des ressorts physiques et informatiques extraordinairement subtils. L'intelligence artificielle, un lycéen doué peut se programmer son petit algorithme, il est hors de question, en revanche, pour un lycéen, pour une lycéenne douée, de se programmer son informatique quantique. Donc, il y a là quelque chose qui reste une affaire assez élitiste, une affaire d'experts informatique quantique, dans laquelle la France a vraiment un rôle à jouer, dans laquelle on a des experts vedettes extrêmement reconnus, je pense à Alain Aspect, Serge Haroche et d'autres qui ont reçu les plus hautes distinctions internationales. Et le plan qui a été annoncé fait de la France le troisième investisseur public en matière d'informatique quantique dans le monde, avec des enjeux importants de souveraineté pour le futur. Informatique quantique, ça veut dire des calculs qui sont faits bien plus rapidement pour, dans certains cas, des protocoles de sécurité qui sont à modifier, des réalisations nouvelles. Bref, ça participera à une petite révolution de l'informatique. Et la France a un devoir, avec sa tradition d'informatique théorique, de mathématiques, de physique quantique, d'en faire partie, d'en être un acteur majeur.
On vient d'écouter Cédric Villani qui lui rappelle alors l'aspect élitiste hein, de vraiment comprendre, de pouvoir travailler, expérimenter la physique quantique. Mais Maud Vinet, est-ce que c'est une compétition aujourd'hui mondiale finalement autour des applications possibles et autour de la mécanique quantique, de tous ces plans quantiques ?
Ah, exactement, c'est une vraie compétition mondiale. Et c'est une compétition mondiale et au niveau des États, parce qu'il y a des questions régaliennes, alors qui étaient un petit peu soulevées tout à l'heure par la question de casser l'algorithme
de cryptologie.
Il y a des questions régaliennes et il y a aussi des enjeux économiques qui sont forts, à savoir aujourd'hui. Alors, la comparaison, elle est peut-être un tout petit peu osée et vous me pardonnerez, mais l'ordinateur quantique, c'est un peu pour moi l'analogie de la bombe. Alors, ça ne tuera pas pareil, mais aujourd'hui, il y a ceux qui l'auront, ceux qui ne l'auront pas, et les équilibres peuvent potentiellement être renversés, les équilibres de force. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plein de choses qui dépendent des supercalculateurs, et si on a un supercalculateur plus puissant que nos voisins, ben on peut faire des choses qui ne passent pas. Alors, on peut remettre les choses dans leur contexte, humblement, on n'y est pas. pour répondre à ce que, enfin, redire ce que disait Alain tout à l'heure. On n'a pas ces supercalculateurs. Aujourd'hui, les supercalculateurs et l'intelligence artificielle, ils sont bien mieux que les calculateurs quantiques. Néanmoins, on approche. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui était dit. On fait des gros progrès. Rapidement en plus, et puis les ingénieurs, ils n'étaient pas encore impliqués. Et maintenant qu'on met les ingénieurs et qu'on met beaucoup plus de force, la vitesse à laquelle ça va évoluer, ben, c'est encore très très difficile à dire. Et jusqu'où on va pouvoir aller, ben, pour moi, c'est un mystère encore, mais j'ai très très envie de jouer et de gagner cette course.
Maud Vinet, Alain Aspect, alors vous évidemment, vous êtes au-delà, au-dessus de cette course-là, mais quand même, c'est une compétition et vous l'avez dit, ça doit être aussi une collaboration pour le coup avec les ingénieurs, avec les étudiants. Vous avez dans votre jeune temps, si j'ose dire, travaillé en Afrique où sont beaucoup de nos auditeurs, notamment au Cameroun. J'ai envie de saluer d'ailleurs Séverin Djakaou, à nos auditeurs qui vous saluent depuis le Cameroun. Est-ce que ça pourrait être collaboratif aussi, cette révolution quantique en marche et qui va peut-être plus vite que ce qu'on pense, Alain Aspect, pour terminer?
Alors, ce qui est collaboratif par nature même, c'est la recherche fondamentale.
Ah, voilà.
La recherche fondamentale reste collaborative, elle a toujours été collaborative, et elle continuera à l'être. Ensuite, il y a le moment où on passe aux applications concrètes et où là, il est très important d'avoir des idées sur la façon de réaliser de façon pratique. Et là, on entre dans le domaine de la propriété industrielle, du fait que l'on prend des brevets et que celui qui possède un brevet a manifestement un avantage par rapport à celui qui n'a pas eu cette bonne idée et qui n'a pas breveté. Et ce qui est très important à ce niveau-là, c'est que dans les domaines de ce qu'on appelle les TRL plus élevés, c'est-à-dire les applications qui commencent à pouvoir avoir un vrai impact sur la vie des gens, sur l'industrie, sur ce qu'on est capable de faire de façon concrète, il est important qu'à ce niveau-là, certes, on ait pris des brevets, qu'il y ait la propriété industrielle, mais qu'ensuite les États, les industriels soient capables de négocier de façon correcte, de façon loyale. C'est-à-dire, il me semble essentiel qu'au niveau mondial, il y ait une loyauté dans les échanges de brevets, de propriété industrielle.
Un grand merci à Alain Aspect, pourvu qu'il soit entendu. Alain Aspect, prix Nobel de physique 2022. On en aurait voulu encore, mais nous voilà à la fin de cette rediffusion de l'entretien que ce pionnier de la physique quantique nous avait accordé en avril 2021 avec la physicienne Maud Vinet. Je vous renvoie, chers amis auditrices et auditeurs, sur les conférences et les ouvrages du professeur Alain Aspect, Introduction à l'optique quantique, ou encore Einstein et les révolutions quantiques parues aux éditions du CNRS. Et je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière diffusion de l'année. On vous embarquera sur Mars, carrément, autour de la question quelle nouvelle du rover Persévérance, avec l'astrophysicienne Pernelle Bernardi. À demain pour sonder ensemble la planète rouge à bord de notre vaisseau radiophonique, avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Achowski au micro. Merci pour votre curiosité, surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Dans une minute, vous retrouverez les informations sur RFI.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.